Europe 1. Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
Je vous raconte une course à la voile mythique, la victoire d'Éric Tabarly dans la transatlantique en solitaire de 1964, que je tire du livre d'Éric Tabarly, Victoire en solitaire, paru chez Artaud. Jusqu'au bout, vous verrez, il n'a aucune idée de sa position. Il ne sait pas s'il est en tête ou s'il est dernier. Une autre époque, une belle époque. Pour le débrief tout à l'heure, je recevrai son frère, Patrick Tabarly. Bettina Servant m'a aidé à écrire cette histoire. La réalisation est de Céline Lebrun.
Europe 1, Christophe Ondelat.
Si je me souviens bien, c'est au mois de juin 1962 que j'ai lu dans une revue que le Royal Western Yacht de Plymouth allait organiser une deuxième course transatlantique en solitaire. La première course en 1960, franchement, je ne l'ai découverte qu'après coup. Mais les résultats et les récits des participants m'ont beaucoup intéressé. C'était très attrayant ce genre de course, même si je n'avais jamais navigué seul. C'était complet comme épreuve. Et c'était indispensable au progrès de ce sport. Et donc en juin 1962, je leur écris pour avoir le règlement de la deuxième édition. Quand je reçois le règlement, la date a changé. Ça ne sera pas 1963, ça sera 1964. Départ de Plymouth, arrivé à Newport, aux États-Unis. Et entre les deux, roue libre. Quant au bateau, pas de conditions de taille ou de forme, la liberté. Avec tout de même quelques exigences, pas de moteur à bord, si ce n'est pour alimenter l'éclairage ou la radio, pas d'aide extérieure au cours de la croisière, et naturellement, être seul à bord. Alors, avec quel bateau s'engager? J'en ai un, mon Penwick, un contrefranc de 15 mètres, un vieux gentleman qui date déjà quand même de 1898, c'est-à-dire de tiers de siècle. Sa voilure n'est pas très rationnelle pour une course en solitaire à travers l'Atlantique, pas assez maniable. Donc il me faut un autre bateau. Et à la fin de l'été 1962, je vais voir mes amis Gilles et Marc Costantini au chantier naval de Saint-Philibert, dans le Morbihan. Bon, il me faudrait un bateau. Mais je sais pas trop quelle taille. Je manque d'expérience pour ce genre de course, tu vois. Alors j'ai regardé la première transat, le gagnant de Chichester, il avait un 12 mètres. Mais il s'est vachement plaint après d'avoir perdu beaucoup de temps à manœuvrer les voiles. Et puis le second Rasseur, il avait un flockboat de 8 mètres avec une seule voile. Moi je pense qu'il faut jouer entre les deux. 10 mètres, tu vois. Qu'est-ce que t'en penses? Et donc Gilles Costantini se met à dessiner des plans. Et moi je suis officier de marine, et donc il faut que je prenne un congé. La marine me le donne sans problème, mieux que ça. Il m'affecte à Lorient, tout près du chantier naval. Et le bateau, baptisé Margilic 5, est mis à l'eau fin avril 1963. Je l'essaye pendant tout le printemps et l'été 63. Je participe avec lui à des courses croisières. C'est un bateau rapide, hein, qui remonte bien au vent, facile à gouverner. Un bon bateau. Mais je me rends compte que je suis capable de manier un voilier beaucoup plus grand que ça. Gilles, je me dis qu'on peut faire beaucoup mieux que ça. On peut avoir au moins 10 mètres à la flottaison et dans les 13 mètres hors tout, non? Qu'est-ce que t'en penses? Moi, je suis d'accord avec toi. On n'a qu'à vendre celui-là et puis ben, on en fait un autre, quoi. Et c'est comme ça que naît Penwick 2. On y passe des week-ends entiers avec Gilles à crayonner, à gamberger sur les voiles. Le problème, c'est que le Margilic 5 ne se vend pas. Et moi, je pars en mai prochain. Il faut mettre le bateau en chantier. Mais je n'ai pas assez d'argent. Je suis sur le point de renoncer quand un ami me propose de m'avancer l'argent. Ouf! Et donc la construction commence. Et bien sûr, ça prend plus de temps que prévu. La fabrication de la quille, notamment. La fonderie m'avait dit fin mars.
Dites-moi, monsieur Tabarly, finalement, la quille, on pourra pas la livrer avant le 5 avril. On est désolé.
Le 5 avril? Mais la course démarre mi-mai. Je n'aurai pas le temps de me familiariser avec le bateau. Le 5 avril, Vanwyck 2 est mis à l'eau. Le 23, la marine me détache à plein temps pour les finitions. On installe la table à cartes, la cuisine, le circuit électrique, les mâts, le gouvernail. Et le 10 mai, à une semaine du départ de Plymouth, on a pareil. Je vais enfin naviguer sur Vanwyck 2. Ça va, il est bien équilibré, la vitesse est bonne. La grand-voile est peut-être un peu trop creuse. On nous livre le gouvernail automatique, je le mets en place, on l'essaye dans l'après-midi. Au plus près ça va, mais au large par petite brise, ça va pas du tout. Mais c'est trop tard, il va falloir faire avec. Enfin, ma mère insiste pour que je prenne une radio. Moi, j'aime pas trop ça. Hein. Bien sûr, ça la rassurera si je l'appelle, mais si je l'appelle pas, elle va s'inquiéter. Et je prends du coup aussi un petit groupe électrogène, dont je n'ai absolument pas l'intention de me servir. Je déteste ces engins pétardants. Et arrive le 16 mai, le jour du départ de Bretagne, vers Plymouth. Avec le you-you, je reconduis ma mère à terre. Elle se force à sourire, mais elle a les yeux pleins de larmes. Et moi, je me sens un peu coupable. Je reviendrai, maman. Je reviendrai. Faut pas t'inquiéter. Et maintenant, j'ai deux jours, pour tâter un peu mon bateau. Le temps de rallier Plymouth. Et en haute mer, ça se confirme. Par brise faible, il ne faudra pas s'attendre à des exploits. Par contre, dès que le vent atteint force 3, c'est-à-dire 8 à 10 nœuds, le bateau se réveille. Et quand j'arrive à Plymouth, je suis assez content. À Plymouth, je décide de rester dans la rade et de prendre un corps mort en eau profonde. J'ai encore du boulot. Il faut que je retaille ma grand voile, que j'installe mon compas renversé au-dessus de ma couchette. Ça me permettra de vérifier le cap d'un coup d'œil sans me lever. Et puis, je dois encore passer une couche de peinture antidérapante sur le pont. Et il me manque toujours un speedomètre. Ça, c'est pour connaître la vitesse. Avant de partir, j'ai fait une commande de vivres à la marine. Et mon père a chargé du charbon pour mon poêle. Ma tante Moni débarque à Plymouth avec les dernières provisions. Des œufs, des fruits et des allumettes. Le jour du départ, on me livre mon speedomètre in extremis. À 5 heures du matin, je suis sur le pont en train de l'installer. Et je suis toujours en train de percer et de scier quand les premiers concurrents se dirigent vers la ligne de départ. Et moi, j'ai toujours mon père à bord et deux journalistes. Et la vedette qui doit venir les chercher n'est pas là. 10h moins 13, toujours pas là. 10h moins 10, pas là. Je peux plus attendre. Je colle tout le monde dans le you-you des journalistes et je file vers la ligne de départ. On est 15 bateaux sur la ligne de départ. Vent de sud, assez fort. Et c'est parti. Si j'avais été sur la ligne 5 minutes plus tôt, j'aurais pris un meilleur départ. J'envoie le spi, qui se gonfle. Sur le pont bondé de spectateurs, les gens se mettent à applaudir. Je me suis souvent demandé ce que ça me ferait quand je verrais disparaître la Terre au loin. Eh bien, je ne ressens rien. Il est temps de déjeuner, si je veux dormir entre 14 et 15 heures. Emmagasiner du sommeil en prévision de la nuit. Dans ma cuisine, on ne peut pas se tenir debout. Alors j'ai fait installer une selle de Harley Davidson, montée sur un pied qui peut s'incliner pour compenser le gîte. En cas de roulis, j'ai une sangle passée derrière mon dos. Ça va, j'ai bien mangé et j'ai bien dormi. Je suis en train d'émerger quand j'entends un bruit de moteur au loin. C'est mon père et des photographes. Au moins, j'aurai des photos souvenirs. Papa, il faut que t'envoies deux lettres urgentes que j'ai pas eu le temps d'envoyer. Ok. Vous avez vu les autres bateaux? Non. Un peu avant 20h, le vent tombe. Je rentre mon spi, il fait nuit noire, et partout autour, je vois des feux, blancs, verts, rouges. Je suis sur la route des cargos, aussi mal à l'aise qu'un cycliste égaré entre des poids lourds. Vers 5 heures, je vois le jour se lever. Maintenant, on me voit sur la mer. Et donc, je peux descendre dormir. À 7h30, le réveil sonne. Et j'entends les trépidations d'une hélice. Alors je monte sur le pont, un brouillard dense. On voit pas à 50 mètres. Et le bruit du moteur qui se rapproche. Le vent est tombé, les voiles battent. Je peux pas bouger, je suis impuissant. Et là, je vois les ondes de son sillage qui soulèvent Penwick. Ouf, c'est bon, le bateau est passé. Mardi 26 mai, troisième jour. Vers 11h45, un gros avion des gardes-côtes me survole. Il fait plusieurs passages. Au moins, mes parents sauront que tout va bien. Juste après, mon gouvernail automatique me donne du souci. Il y a du jeu, une fixation qui est endommagée. Je vois pas le moyen de le réparer. C'est une catastrophe. S'il casse, je vais devoir barrer constamment et mettre le bateau en panne pour dormir. Et la course sera terminée. Enfin, pour l'instant, ça tient. Jeudi 28 mai, cinquième jour. Le calme plat m'a réveillé. Il pleut des seaux. Et il faut que j'essaye de réparer cette satanée fixation sur le gouvernail automatique, sous la pluie. Je réussis à bricoler quelque chose. Et comme c'est jeudi, ah ça c'est la tradition dans la marine, je me fais un bon repas. Une boîte de lapins chasseurs. Il n'y a qu'à réchauffer. Et en fin d'après-midi, j'essaye d'appeler Radio Conquet. Conquet pour Penwick 2, Conquet à vous. Conquet à vous pour Penwick 2, Conquet. Pas de réponse. J'aurais bien donné signe de vie à mes parents. Vendredi 29 mai, sixième jour. Porté par un vent de force 7, Penwick fonce comme un bolide. Je surfe sur la crête des vagues. C'est une sensation formidable. Et mon moral remonte. Samedi 30 mai, ça fait une semaine. Je sens la fatigue avec ce fichu pilote automatique qui ne marche pas bien. Je dois être toujours en alerte. Dimanche 31 mai, huitième jour. J'ai mis un réveil toutes les 2 heures, mais la fatigue me joue des tours. Je n'ai pas entendu la sonnerie de 6 heures. Je me réveille à 7h30. Et là, je trouve le bateau à l'arrêt, empanné. Empanné depuis combien de temps? Eh ben, je sais pas. Je suis furieux. De toute façon, il n'y a pas de vent. Alors je profite du calme pour graisser mon gouvernail automatique. Oh zut! Zut, j'ai perdu le gouvernail. Je me fais pas trop de billes puisque j'en ai un de rechange. Sauf que c'est l'axe qui est cassé. Et je n'ai aucun moyen de l'extraire, aucun. Et là je suis vraiment inquiet. Parce que sans gouvernail automatique, la course est perdue d'avance. Je devrais m'arrêter pour dormir et les autres tailleront la route. Et du coup, est-ce que je devrais pas abandonner? Bah non. Non, je pense à tous ceux qui m'ont encouragé, qui m'ont aidé, qui m'ont soutenu. Je dois terminer. C'est conforme à l'esprit du sport. Lundi 1er juin, 9e jour. Un avion fait du rasmote au-dessus de nous. Sans doute l'appareil de repérage de la course. Je pense qu'il prend des photos. Ils vont sans doute prévenir mes parents. Le soir, un jour sur trois, je me fais du riz au lait avec de la confiture. Et des omelettes flambées, j'ai une bonne réserve d'œufs. Et des spaghettis à la sauce tomate. Et quand je vais me coucher, ça va vous surprendre ça. Eh bien je me mets en pyjama. Ah oui, j'ai remarqué que quand je me couche habillé, je dors moins bien. Juin, 12e jour. Ça y est, j'ai passé la moitié de la course. La mer grossit à vue d'œil, je suis de plus en plus secoué, Penwick se cabre, j'hésite à aller me coucher, mais le baromètre est en train de dégringoler. J'aimerais bien savoir ce qui se prépare. Je vais devoir passer la nuit à la barre, en somnolant. Vers 3h du matin, le vent mollit, le ciel se dégage. Je peux aller me reposer. Samedi 6 juin, 14e jour, fin de la 2e semaine. Putain, en enfilant mon chandail cette nuit, j'ai fait tomber mon réveil et il marche plus. Mais comment est-ce que je vais faire sans lui? Je voulais en prendre un de rechange, j'ai oublié. Dimanche 7 juin, 15e jour. C'est tellement humide à l'intérieur du bateau, avec les voiles mouillées qui goûtent, que j'allume mon poêle à charbon. J'en profite pour faire sécher quelques vêtements. Je ne sais pas vraiment où je suis. À cause des nuages et du ciel bouché, ça fait 3 jours que je n'ai pas pu faire le point avec mon sextant. Lundi 8 juin, 16e jour. Le ciel est radieux. Et donc, avec un peu d'appréhension, je sors mon sextant et je calcule ma méridienne. Voilà. Voilà, je suis beaucoup plus au sud que je le pensais. Je suis dans le Gulf Stream, ça me ralentit. Il faut absolument que j'en sorte pour trouver le courant du Labrador plus au nord. Mardi 9 juin, 17e jour. Je me demande où sont les autres. Je n'ai aucune nouvelle depuis le départ. Et je ne reçois aucune station de radio. Moi, j'ai l'impression d'avoir perdu beaucoup de temps. Au milieu de la nuit, je suis réveillé en sursaut par un bruit énorme. Je sors sur le pont, rien d'anormal. Alors je m'avance vers l'avant. Et là, je vois l'une de mes voiles qui traîne dans l'eau. Une poulie s'est détachée en haut du mât. Il faudra grimper demain matin pour la refixer. Il fait sacrément froid. Je mets ma main dans l'eau, glacée. Ça y est. Je suis sorti du Gulf Stream. Je suis dans le courant du Labrador. Le lendemain, légère brise de sud-est. Je pense que je peux grimper au mât pour remettre ma poulie. Plus je monte, plus le roulis s'accentue. J'ai l'impression d'être accroché à un métronome qui bat la mesure. Tic, tac, tic, tac. Et arrivé en haut à une dizaine de mètres, j'ai la trouille de me faire projeter comme une catapulte. Merde ! Le bateau s'est mis en travers. Je suis obligé de redescendre, de remettre le bateau droit et de remonter. Ça y est, j'ai remis la poulie. Je redescends. Oh zut ! En haut, la drisse du spi et celle du phoque se sont emmêlées. Et donc, il faut que je remonte une troisième fois. Ça m'a pris toute la matinée. Je suis affamé. Fin de la troisième semaine. Je viens de faire le point. Je suis à la hauteur de l'île de sable. C'est très rassurant. C'est presque inespéré. J'aimerais bien savoir où est Chichester. Avec son multicoque, il a dû être avantagé. Il me reste encore 500 milles à parcourir. Normalement, la quatrième semaine sera la dernière. Nous sommes le 15 juin, 23e jour de course. Le temps est magnifique. Je voudrais forcer l'allure, mais c'est le calme qui s'installe. Hier, j'ai été survolé à plusieurs reprises par des avions de l'aéronavale canadienne. Mes parents vont savoir que j'approche du but. Je n'ai aucune idée de où sont les autres. Moi, j'ai dû perdre plus de temps qu'eux dans le Gulf Stream. Ils doivent encore avoir leur gouvernail automatique, eux. En tout cas, cet après-midi, j'ai vu défiler tout un tas de bateaux de pêche. Retour du risque de collision. Plus question de dormir. Et ce qui m'inquiète, c'est que normalement, je devrais voir à tribord la tour Texas numéro 2. C'est une plateforme triangulaire plantée sur les hauts fonds. Je comprends pas. J'ai dû faire une erreur dans mes calculs. Juin, 26e jour. J'ai l'impression que j'avance pas. Ou si peu. Ah ! Ça y est, je le vois au loin. Le bateau-feu de Nantucket, pile où je l'attendais. Je le double vers 10h45, et là je vois l'équipage qui m'a vu approcher mettre une vedette à l'eau. Elle fait un grand cercle autour de moi, elle s'approche à quelques mètres.
Est-ce que vous savez combien de bateaux sont arrivés ?
J'aurais sans doute dû poser la question en anglais. Mais ils me répondent.
You are the first! You are the first!
The first? Le premier? J'y crois pas. Est-ce qu'il a bien compris ma question? Il n'est certainement pas au courant de la course. Pas question de se réjouir avant une confirmation. Vers midi, un petit avion de tourisme passe et repasse au-dessus de moi. Et je vois quelqu'un avec un appareil photo à travers les vitres du poste de pilotage. Et 3 heures plus tard, passe un autre avion. Et puis encore un autre, qui tourne autour de Panwick longtemps. Et en voilà un quatrième. Je commence à croire que je ne dois pas être mal placé. si j'étais le dernier, hein, on ne cramerait pas autant d'essence pour moi. J'apprendrai plus tard que l'un des avions a été affrété par Paris Match. Le temps est magnifique. Et j'en profite pour faire sécher sur le pont les vêtements, les sacs à voile, et je jette par-dessus bord le pain qui reste et qui a moisi. Et toute la nuit, je reste sur le pont. Je n'ai pas dormi depuis 36 heures. Si je me couche, je vais sombrer. Je suis maintenant à 15 milles de l'arrivée. Et je vois venir vers moi une vedette. Et dans la vedette, ma tante, avec des journalistes de François. Eric, tu es le premier! Le premier! Et là, arrivent deux autres vedettes, l'une avec les correspondants de l'agence France-Presse et l'autre avec des journalistes anglais. Et de loin, ils m'interviewent.
Qu'est-ce que vous ressentez, monsieur Tabarly? Vous allez gagner! Comment est-ce que vous vous sentez physiquement, monsieur Tabarly?
Et ensuite, je franchis les deux repères qui marquent la ligne d'arrivée. J'ai mis 27 jours. Je passe le chenal. Et là, je vois une foule de vedettes qui viennent à ma rencontre, en klaxonnant. Dont une vedette qui transporte le consul de France à Boston.
Monsieur Tabarly, je suis chargé de vous annoncer que le président de la République a décidé de vous faire chevalier de la Légion d'honneur. Félicitations, monsieur Tabarly.
Et quand j'arrive à quai, l'appontement est noir de monde. Et dès que j'ai amarré, des tas de gens se jettent sur le pont.
Mr. Tabarly.
Enchanté. Je suis Charles Hamley, le maire de Newport. Je vous fais citoyen d'honneur de notre ville. On me photographie plus qu'on ne m'a jamais photographié de toute ma vie.
Comment était Tabarly lui-même?
Tabarly, absolument superbe. Frais comme une rose. Pas du tout fatigué. Apparemment, c'est un garçon qui a une résistance étonnante. Et évidemment, il manque un peu de sommeil, n'est-ce pas? Et il a besoin de récupérer un peu, mais enfin, il était tout à fait les deux pieds sur la terre. Et pas du tout choqué, pas du tout abasourdi. Il rêvait de manger un steak saignant. Et alors, on lui a servi là un steak comme on en sert aux États-Unis, c'est-à-dire un steak qui pèse à peu près 600 ou 700 grammes. Et il a tout mangé, n'est-ce pas, d'un excellent appétit.
Est-ce que vous attendiez à gagner cette course?
Au départ, j'avais beaucoup d'espoir. En cours de route, j'ai à peu près perdu tout espoir quand j'ai cassé mon pilote automatique.
Et ce matin, quand on vous a annoncé que vous avez gagné, vous avez été surpris, vraiment?
J'ai été assez surpris, oui.
Je suis la tante d'Eric. Je suis la sœur de son père. Je suis venue spécialement pour le voir. Vous savez, j'adore voyager. Et je trouve que c'est une chose tellement magnifique que je suis venue spécialement pour son arrivée. Je suis allée à Plymouth pour son départ et je suis venue ici pour son arrivée. Nous l'avons survolé hier en avion et tout à l'heure, je suis allée avec des amis pour lui parler un petit peu dans la mer, mais sur la mer, mais il faisait très très vilain temps et on n'entendait absolument rien de ce qu'il disait. Il avait sa barbe, un peu pirate.
Est-ce que vous êtes au courant déjà de la Légion d'honneur que le général de Gaulle lui a décernée?
Non.
Ah bon, vous...
Oui.
Oui,
le général de Gaulle lui a décerné la Légion d'honneur.
Oui, oui, oui.
Oh, c'est formidable, ça. Oh, écoutez, je suis vraiment très heureuse. Je vais lui apprendre tout à l'heure. Oh, écoutez, j'en suis tout émue.
Le passage a été un peu brusque du silence à cette explosion de paroles. On m'a posé... beaucoup de questions, toujours les mêmes. J'ai raconté 10 fois, 20 fois à des inconnus tout ce qu'ils voulaient savoir sur la course, sur moi, sur ma vie. Tout ce que je peux dire, c'est que la course elle-même n'a pas été une épreuve. Elle a correspondu parfaitement à la vie que je désire mener. Je crois que j'aurais pu tenir encore des jours et des jours après l'arrivée. Voilà pour cette histoire que nous allons maintenant débriefer avec le frère d'Eric Tabarly, Patrick, qui est là, plus jeune, plus vieux, plus jeune.
Ah, beaucoup plus jeune, hein. Ouais. J'ai 13 ans de différence, ouais, avec Eric.
Mais vous avez navigué avec lui?
Ah bah déjà, même quand il a fait sa transat, là, hein, j'avais déjà navigué 5 ans sur Pendwick, et puis l'année sur...
Sur le vieux Pendwick.
Sur le vieux Pendwick, le premier du nom.
Ouais.
Et puis, sur le bateau qui devait prendre, le bateau de 9 mètres,
ah, oui.
On a fait toute une saison et on s'est aperçu que c'était trop petit, quoi.
Alors, restons sur cette dernière phrase. Ça n'a pas été une épreuve. Là, j'ai l'impression que c'est du pur tabarly.
C'est du pur tabarly, et puis les tabarly ne se plaignent pas, quoi, généralement.
Oui, ça s'est toujours passé facile, quoi. J'aurais pu en faire encore des jours et des jours.
Une fois qu'on est parti, après, on peut aller très loin, oui. Après, on peut manquer de vivres ou des choses comme ça, mais sans ça, non, on peut aller loin.
Il dit aussi, ça correspond parfaitement à la vie que je désire mener. Comme si, au fond, cette course avait été le révélateur et le début de sa vie de navigateur. De grand navigateur.
C'était le métier qu'il aimait. Là, il a pris énormément de risques, d'ailleurs, parce qu'ils allaient à l'aventure. Hein. Comme nous, quand on est parti avec Pendwick 6 pour la première course autour du monde, on ne savait pas ce qu'on allait rencontrer. Au point de vue temps, toutes les dépressions dans l'Atlantique Nord qui sont très dures, et donc il faut passer dedans. Et on va un peu à l'improviste.
Faut le dire, parce qu'aujourd'hui, il y a tous les jours des skippers qui traversent l'Atlantique avec les bateaux modernes, les GPS et la météo et compagnie. Mais en 1964, c'est un peu terrain connu quand même.
Ah bah tout à fait. Tout à fait. Ah oui,
Personne ne fait ça.
On allait à l'aventure, non. Il y en a eu quelques-uns. Des navigateurs qui ont traversé l'Atlantique, qui avaient fait même déjà un tour du monde. Mais pour nous, on commençait notre vie de marin et on allait à l'aventure.
On partait à l'aventure. Ouais. Alors évidemment, ce qui est fascinant dans ce récit, moi ce qui m'a beaucoup amusé, j'ai raconté pas mal de courses plus modernes, sont les conditions de course, quoi. C'est-à-dire qu'il part avec un poêle à bois. Ça, c'est un truc qui aujourd'hui est absolument impensable. C'est parce que ça pèse lourd.
Oui, mais dans les courses, souvent, on emmenait un appareil, si c'était pas un poêle à bois, c'était un poêle au mazout, pour faire sécher le matériel, entre autres les bottes, parce que les bottes sont souvent pleines d'eau, et c'est quand même plus agréable de les faire sécher.
Et puis il part avec des œufs, moi ça m'éclate, parce qu'aujourd'hui on emporte des choses lyophilisées, dans lesquelles on met un peu d'eau dedans, enfin, on essaye de limiter au maximum le chargement, là il part avec des œufs, il serait parti avec une poule, comme l'a fait le jeune Guirec, je sais pas si vous connaissez cette histoire.
Les œufs, c'est agréable, parce que ça se conserve 40 jours, on peut les garder 40 jours sans frigo, il suffit de les envelopper dans du papier journal.
Si votre mère ne l'avait pas, je ne sais pas si c'est demandé ou exigé, il n'aurait pas pris de radio.
Oui, c'est sûr. Il n'aurait pas pris de radio. Et de toute façon, je pense que sa radio marchait, mais
il s'en est pas servi, en fait.
Non, il s'en est sûrement pas servi.
Enfin, il y a un sentiment, on sent qu'il y a une certaine ambivalence là-dessus. C'est-à-dire, le piège, il le dit vachement bien, c'est si j'appelle pas, elle va s'inquiéter, puisque j'ai la radio. Alors que si j'ai pas la radio, elle s'inquiétera pas.
Tout à fait.
Ouais.
Ben oui.
Mais en même temps, donc il y a des jours où il est content que les parents aient des nouvelles, et que vous aussi, son frère, vous ayez des nouvelles. Et puis il y a des jours où il a l'air de dire « je m'en fiche ».
Moi j'étais en train de faire mon service militaire, alors vous voyez, c'est pour ça que je n'ai pas pu profiter de cette mise à l'eau, de cette navigation avec Eric au début, avant sa course. Mais moi, j'écoutais la radio pour essayer d'avoir des nouvelles, mais on n'en avait pas beaucoup. Et comme il ne donnait pas sa position, on ne pouvait pas savoir où il était.
Ils ne savaient pas du tout. Ils ont fait le départ de la course et puis l'arrivée au milieu, il y a un gros flou, quoi. Ils avaient repéré des bateaux quand même ou pas, les avions? Parce que c'était le seul moyen.
Souvent, c'est les cargos. Souvent, c'est les cargos qui signalent en disant « j'ai vu un tel bateau » et tout ça. Donc après, on détermine quel bateau c'est, quoi.
Alors, ce qu'on voit aussi, c'est que, c'est vrai que c'est sa première transat en solitaire. Et en même temps, il a un savoir-faire technique. Il en parle des pages et des pages. Là, j'ai été obligé de zapper un peu parce que c'est pas accessible à tout le monde. Mais enfin, il sait à peu près tout sur le choix des voiles, la taille des voiles, comment elles doivent être découpées, etc. C'est quand même déjà un technicien. Hein.
Oui, pas tellement bricoleur, mais très technicien pour savoir ce qu'il veut, comme vous dites, au point de vue voilure, au point de vue type de bateau, et tout ça, quoi. Donc, ils ont travaillé avec Costantini tous les deux d'une façon remarquable.
Pas bricoleur, vous dites ?
Non. On ne peut pas dire qu'il est bricoleur, à part le matelotage. Le matelotage, c'est tout ce qui est épissure, réparation de voile et tout ça. Là, il avait fait un stage à la voilerie Tonnerre, et donc là, il s'y connaissait.
Mais la menuiserie
La mécanique, alors là, impossible. Ouais. La menuiserie, non. Et puis, il n'emportait pas le matériel pour pouvoir vraiment bien bricoler, quoi.
Non, Il n'avait pas ça. Alors, dites-donc, ça donne un bateau très lourd quand même, tout ça. Enfin, je suis totalement ignorant de tout ça, mais il me semble qu'aujourd'hui, on essaye d'avoir des bateaux le plus légers possible. Et là, on a l'impression, parce qu'ils embarquent des sacs de charbon, quoi, quand même.
Oui, mais ce n'est pas beaucoup de sacs de charbon, et puis en plus, ça ne pèse pas très lourd. Par contre, Penwick 2 n'est pas un bateau lourd. Le bateau de Chichester était lourd. Oui. Mais,
à Penwick... l'époque, il fallait qu'il soit lourd.
Ben non, plus c'est léger, plus c'est facile à manœuvrer.
On est d'accord, hein.
Ah oui, ah oui. Donc il avait fait le bon choix en faisant ce bateau-là qui marchait remarquablement bien.
Donc pas de GPS, évidemment, on rappelle, hein, c'est base,
non, ça n'existait pas.
Ouais. Pas de radar non plus pour repérer les cargos dans le brouillard. Pas de balise, bien sûr, en cas de problème.
Il n'y en avait pas, ça n'existait pas, les balises.
Donc c'était la BLU, la radio marine, ou rien.
La BLU, oui.
Voilà.
La BLU, c'était assez compliqué, parce que c'était Saint-Lys Radio. Oui. Qui recevait les appels. Oui. Donc, on appelait, ils nous donnaient un numéro.
Oui.
Et quand le numéro arrivait, on prenait contact avec eux. Mais à ce moment-là, souvent, les missions passaient plus.
Oui, on les avait perdus.
Oui. Des fois, ça passe bien, et puis des fois, ça passe mal. Et il faut rester des heures, des fois, pour avoir une communication.
Il y a un truc qui a dû faire marrer les gens, c'est le coup du pyjama. Il y a un côté un peu... Il y a un côté très officier de marine, là. Le pyjama à rayures, mais vous avez une autre version, en vérité.
Moi, je ne l'ai jamais vu en pyjama, j'ai vu plutôt...
À poil, mais
pas en pyjama.
Et alors, ce qu'il y a, évidemment, de fascinant... est extrêmement différent d'aujourd'hui, et qui sans doute d'ailleurs change complètement la nature de ce qu'est une course en solitaire, c'est qu'à aucun moment de ces 27 jours de course, il ne sait où sont les autres. Il ne sait pas s'il est premier ou s'il est dernier. Ça change tout.
Pour le public, oui, ça change tout. Mais pour le marin, ça ne change rien du tout.
À votre avis, non.
Il donne le maximum pour aller le plus vite possible. Pour lui, ça le...
C'est-à-dire, on cale pas sa stratégie, ni d'ailleurs les directions qu'on prend en fonction de l'adversaire. C'est quand même sacrément différent. Aujourd'hui, on sait tous les jours par quelle route est parti le principal concurrent. On sait qu'il est parti par le nord, et que nous, on est dans le sud, et on hésite, on se dit, est-ce qu'on devrait pas remonter vers le nord, etc.
Ben, là aussi, ça dépend aussi du type de bateau que l'on prend, parce que il y a différentes, il y a trois routes, il y a l'orthodromie, la loxodromie, quoi.
C'est la route qu'il a prise, celle-là.
Oui, la loxodromie, c'est celle qu'il a prise, c'est un petit peu plus long, parce que c'est la ligne droite.
Mais il y a des courants.
Et sur le globe, la ligne droite, c'est pas le plus court.
Non.
Et il y a le courant qui
est porteur, quoi.
Porteur, oui, le Labrador, et puis où il n'y a pas beaucoup de courant, mais par contre, le Gulf Stream, il va d'ouest en est, et donc là, il ne faut pas être dedans, parce qu'il est à plus d'un nœud. Oui, il est à plus d'un nœud.
Donc il faut lutter contre lui, quoi.
Oui, ça fait 24 000 qu'on ne fait pas dans une journée, c'est énorme, ça fait 40 km.
Alors qu'est-ce qui s'est passé avec la Tour Texas numéro 2, c'est-à-dire que lui, il a des livres sur lesquels on lui dit là, il y a normalement, en haute mer, posé sur des hauts fonds, une tour qui date de la guerre froide, etc. Mais c'est un point de repère, et alors il la trouve jamais, alors qu'il est sûr d'être à la hauteur.
Oui, elle avait été démontée.
Et le livre n'était pas à jour, quoi.
Les instructions nautiques, des fois, sont pas à jour. Quoi, où on n'a pas la dernière version.
Oui.
Et des fois, il y a des transformations.
Alors, il y a des scènes cultes. Moi, je trouve absolument culte le consul qui va lui annoncer la Légion d'honneur au porte-voix, alors qu'il n'a même pas posé pied à quai. Bon, en même temps, à l'époque, on ne la distribuait pas comme aujourd'hui.
Oui. Hein? Et ça, c'est vrai. Donc, ça lui a fait très plaisir. Quoi.
Ouais.
Donc,
il faut rappeler que c'est un militaire, quand même.
C'est un militaire, oui.
Ouais. Ouais. Donc, le général qui lui donne la Légion d'honneur.
Et puis, on lui a prêté un costume parce que de militaire.
À l'arrivée. Ah oui, pour qu'il soit quand même, qu'il ait les galons.
Oui, pour qu'il soit correct.
Et la tati, pardon, mais elle a l'air extrêmement rigolote, votre tati. Un peu snob, peut-être.
Oui, c'était un phénomène.
Non, mais pour une femme de cette génération, 1954, être au départ et à l'arrivée, survoler la course avec un...
Oui, mais elle adorait Eric et donc elle voulait être à son arrivée.
Est-ce que c'est cette victoire qui déclenche sa carrière?
Oui, tout à fait, oui. Ah oui, parce que ça a été mondialement connu, cette victoire chez les Anglais. Alors là, ça a été un coup de bambou, parce que c'était Chichester qui devait gagner. Quoi.
Ouais. Et là... C'était les Anglais qui gagnaient dans premières courses, normalement.
La première course, il y a 4 ans avant cette course-là, Chichester l'avait remportée, déjà.
Donc déception chez les Anglais et émergence d'une voile de course française, quoi.
Ouais.
Dont il est...
Un voilier avec un skipper à bord. Quoi.
Ouais. Alors ce bateau, parce qu'on n'a pas assez parlé de la bête, c'est quand même assez incroyable, ce bateau, il ne l'a pas testé, et c'était un bon bateau finalement.
Très très bon bateau, oui. ils avaient fabriqué spécialement des plaques de contreplaqué qui faisaient 15 mètres de long
oui.
pour pouvoir remettre les bordées d'une seule pièce pour rendre le bateau plus solide.
Ouais.
Alors, la forme de carène, c'est double bouchin, c'est deux angles sur le côté. Costantini voulait mettre qu'un angle, comme l'ancien bateau où ouais. on avait navigué. Et finalement, Eric a insisté, et il a eu bien raison, parce que c'était un bateau bien meilleur.
Ça prouve qu'il connaissait vraiment la technique et l'architecture marine.
Ben, je ne veux pas trop rentrer là-dedans pour
affoler tout le monde. Il a eu une carrière après, Penwick 2, il va courir pendant combien de temps avec ce bateau après ?
Oh, plus beaucoup, il a été tout de suite racheté par l'école nationale de voile au Bégrohu, à Saint-Pierre-Quiberon.
Et il y est toujours ?
Il appartient, mais maintenant il est à la Cité de la Voile,
oui.
à Lorient. Mais de temps en temps, il va aussi à l'École nationale de voile.
C'est-à-dire tous les Penwick
sont à la Cité de la Voile.
À la Cité de la Voile.
Oui.
Et ils sont utilisés par qui ?
Alors là, il y a d'habitude y a des chefs de bord qui emmènent des touristes à bord. Et puis, la Penwick 6 vient de partir avec sa fille Marie. Je crois que c'est pour les Açores.
La fille d'Éric.
La fille d'Éric.
C'est dingue, hein, parce qu'ils auraient pu pourrir dans un coin, ces bateaux. Ils ont tous été sauvés. Il n'y en a pas oui. un qui...
Ah ben, Penwick 2, il a été complètement refait. Hein, donc,
il n'y a plus un millimètre de bois d'origine.
Il reste la quille, il reste la barre de gouvernail, et puis, puis peut-être de la Castillage, mais il a été complètement refait.
Et l'âme d'Éric. Enfin, quand vous allez dedans, vous, dans ces bateaux, vous ouais. sentez votre frère ? Vous sentez qu'il est là quelque part, dans un coin ?
Non, j'y pense bien souvent, mais c'est pas le bateau qui me fait ça, c'est plutôt, je pense de temps en temps à tout ce que j'ai fait avec lui. Quoi. Mmh. Donc, et c'était un gentil grand frère.
Merci beaucoup Patrick Tabarly d'avoir mmh. accepté de débriefer cette histoire. Je rappelle le titre de votre livre à vous, Frères de mer chez Stock, et le titre du livre d'Éric, votre frère, publié chez Artaud, Victoire en solitaire.
Le livre vient de sortir aussi par Artaud.
Au livre de poche.
En livre de poche, oui.
Ok.
Ouais.
Merci infiniment.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur Europe 1.fr.